Le débat du jour.
Nathanaël Vitran.
Quelle place pour le loup en France? Plus précisément, le loup, espèce protégée, est-il compatible avec les troupeaux? La question n'est pas nouvelle, elle divise depuis le début des années 1990 et le retour de Canis lupus dans l'Hexagone, un demi-siècle après avoir été scrupuleusement éradiqué. Un débat contemporain que le réalisateur Alain Guiraudy avait mis en scène en introduction de son film Rester vertical, sorti en 2016.
Je m'intéresse au loup justement. Ça me fascine et ça me fait peur, mais j'aimerais bien en voir.
En tout cas, ici, il nous pourrit bien la vie. Ici comme ailleurs.
Ouais, je sais bien, mais qu'est-ce qu'il faut faire? On va pas les exterminer non plus.
Mais ils disparaîtront pas. Faut juste qu'ils goûtent au plomb, sinon ils sont pas cons. Hein. Ils vont pas s'attaquer à un cerf ou à un sanglier s'ils peuvent bouffer une brebis sans danger. Puis qu'est-ce que t'en as à foutre, toi, qu'il y ait des loups sur ce cause? De toute façon, tu les vois pas.
Bah, je sais pas, c'est de la vie. Même les vipères, j'ai pas envie qu'elles disparaissent.
Un dialogue fictif entre le promeneur et la bergère. Le gouvernement présentait cette semaine son plan loup. Un compromis entre des impératifs contradictoires, mais un compromis sur le loup est-il seulement possible? C'est notre débat du jour. Soyez les bienvenus. Et pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Sandrine Bélier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de l'association Humanité et Biodiversité. Face à vous, Mélanie Brunet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes coprésidente de l'association Cercle 12 qui rassemble 170 éleveurs de l'Aveyron dans le sud de la France. Merci à toutes les deux d'être avec nous ce soir. On va peut-être commencer par revenir sur le fameux plan national d'action sur le loup et les activités d'élevage publié conjointement lundi par les ministères de l'Agriculture et de la Transition écologique. On va aborder les principales mesures dans le détail, mais votre première impression sur le texte, qu'en avez-vous pensé l'une et l'autre, Sandrine Bélier?
Alors, l'objectif du texte, faut quand même le rappeler, et en tout cas, nous, c'est ce qui nous motive à Humanité et Biodiversité, comme son nom l'indique, hein, c'est Humanité et Biodiversité, prendre en considération le fait que l'homme fait partie de la biodiversité, l'humain fait partie de la biodiversité, et qu'il a aussi cette responsabilité dans la diversité biologique. Donc cet objectif, d'une part, de permettre et d'assurer la viabilité du loup, cette espèce qui avait disparu, cette espèce protégée, et puis, d'autre part, de réduire les attaques, puisque c'est en effet un véritable problème. Donc l'objectif de ce plan, c'est vraiment d'organiser la cohabitation.
Est-ce qu'il y répond à cet objectif?
Alors, non, et on a eu beaucoup de débats avec les différents acteurs engagés, et c'est vrai qu'on ressort tous avec une insatisfaction. Alors certains hommes ou femmes politiques pourraient dire qu'à partir du moment où personne n'est totalement satisfait, c'est qu'on a trouvé un bon compromis. Sauf que là, on a des objectifs qui vont au-delà de trouver un bon compromis. L'objectif, c'est d'assurer la viabilité du loup, et puis d'assurer le pastoralisme et la réduction des attaques, de manière à pouvoir assurer aussi aux éleveurs de pouvoir...
On va y venir dans le détail, mais je veux avoir une première impression. Mélanie Brunet, la vôtre, elle est comment?
Bonsoir. Tout d'abord, merci de m'avoir invitée. Bonsoir. Mon impression, malheureusement, oui, est très négative, puisque nous avions déjà averti le gouvernement, nous l'avons alerté, pas seulement nous, les associations d'éleveurs, mais aussi de nombreux élus de tous bords, d'ailleurs, de toutes les zones prédatées en France. Nous ne sommes pas satisfaits, puisque ce loup, son objectif, c'est qu'il y ait encore plus de loups en France. Et vu que déjà en 2017, nous avons eu 12 000 bêtes tuées, brebis, vaches, chevaux, chiens compris, lamas, alpagas, eh bien, s'il y a 100 loups de plus, ben, il y aura encore plus d'attaques.
Parce que l'objectif, c'est que la population de loups atteigne le nombre de 500 en France. En dessous, on ne considère pas l'espèce comme étant viable. Qu'est-ce que ça veut dire, Sandrine Bélier?
Alors, l'objectif, c'est un objectif qui a été annoncé, et en réalité, les seules études scientifiques, c'est l'ESCO, hein, c'est une étude qui a été faite avec le Muséum d'Histoire Naturelle et l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, fixe la viabilité de l'espèce en France à 2000 à 2500 loups. Viabilité génétique.
C'est quoi la différence pour nos auditeurs?
Alors, c'est, là, on a une population aujourd'hui, et c'est vraiment pour s'assurer qu'elle puisse se pérenniser sur le territoire, c'est-à-dire qu'elle puisse vivre sur le territoire avec, c'est en fait finalement un nombre critique. C'est si je devais donner on a pour chaque catégorie d'espèces, il faut qu'il y ait un nombre minimum pour que l'espèce, on s'assure qu'elle puisse rester, qu'elle se reproduise et qu'elle puisse continuer
avec un patrimoine génétique qui évolue, c'est ça l'idée?
Voilà, c'est exactement ça l'idée.
Est-ce qu'au moins avec cet objectif de maintenir le loup en France, d'avoir une viabilité de l'espèce, vous êtes d'accord, ou est-ce que c'est une opposition complète même sur ce point-là?
Écoutez, la viabilité, comme vous disiez vous-même, il y a une différence entre la viabilité de l'espèce exactement et la viabilité génétique. Donc cette étude, effectivement, qui dit 2000 loups, c'est la seule, parce qu'il y a beaucoup d'autres études qui disent que la viabilité est atteinte à 150 individus matures. D'ailleurs, si vous regardez que dans les années 1970, en Italie, il restait environ 70 à 100 loups, aujourd'hui, la population lupine italienne se compte 2000 loups. Donc la viabilité était déjà, vous voyez, autour de 100 loups. 40 ans après, nous en avons 2000.
C'est d'ailleurs de ces 100 loups que sont arrivés, je crois, les loups qui sont aujourd'hui en France, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, ils arrivent d'Italie. Et c'est aussi parce qu'il y a des plans de conservation. C'est comme pour toute espèce. Là, on a des auditeurs internationaux. Vous savez bien qu'à un moment où on a une espèce qui est un peu critique, et puis la question des grands prédateurs, elle se pose aujourd'hui en France, mais elle s'est posée, elle se pose en Inde, elle se pose en Afrique, avec le tigre en Inde, avec le lion en Afrique. Et c'est aussi un choix de société. Il y a des mesures, et là, en l'occurrence, qu'on essaie de porter avec le plan loup et les associations de protection de la nature et de l'environnement. Je le répète, c'est pas opposer. Et l'enjeu, il est là. C'est pas opposer le loup et le retour du sauvage aux éleveurs et puis aux troupeaux. Il y a des possibilités de pouvoir protéger les troupeaux tout en permettant à l'espèce de pouvoir vivre sur notre territoire. Et je trouve que c'est un fantastique enjeu de se dire qu'une espèce qui avait disparu, qui est un grand prédateur, aujourd'hui soit revenue naturellement sur nos territoires en France.
Mélanie Brunet, si on arrivait à rendre le problème pour les éleveurs moins pesant, si on arrivait à limiter le nombre de brebis tuées, est-ce que le fait d'avoir le loup, après tout, dans la montagne...
Tout à fait, le loup, c'est pas notre problème, le loup. Notre problème, c'est la prédation aujourd'hui. Mm-hmm. C'est vraiment... Vous n'imaginez pas, d'ailleurs, j'en profite pour avoir une pensée envers tous mes collègues que j'ai laissés en Aveyron et dans les autres départements français qui sont prédatés et qui ont cette angoisse quotidiennement dans leur ferme, dans leur famille. Vous n'imaginez pas ce que ça représente de retrouver le matin...
Alors, ça
représente, je vous dis tout d'abord, une angoisse. C'est-à-dire que vous avez une attaque un jour, mais vous savez pas, vous en aurez une autre. Une fois que vous en avez une, vous en aurez une autre. Et bien souvent, le loup est un animal territorial, donc il revient attaquer dans les mêmes fermes. Donc cette angoisse, vous l'avez quotidiennement, 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'au moindre bruit la nuit, ça vous réveille et l'angoisse revient. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais trouver? Vous pouvez plus vous rendormir. Il faut aller voir le troupeau. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un bruit, il y a des cloches. Non, voilà.
Bon, ça n'existait pas avant le loup.
Mais non, ça n'existait pas. Vous n'imaginez pas ce que ça représente pour les éleveurs. Et le problème, j'ai bien entendu ce que dit Sandrine Bélier, c'est un choix de société. Mais un choix de société dans notre société démocratique, un choix de société se fait démocratiquement. Et le problème, c'est que dans ce retour du loup, dans ce classement de protection du loup, nous n'avons pas consulter la population locale qui est concernée directement par le retour du loup. C'est vraiment l'énorme problème. D'autre part, je voudrais quand même ajouter que l'espèce lupine, au niveau mondial, n'est pas menacée d'extinction. Elle est classée simplement en préoccupation mineure par l'UICN.
Elle est classée, c'est une espèce protégée sur le territoire européen et par la Convention de Berne. Et moi j'entends qu'il fallait consulter les populations, mais on a une responsabilité collective. Est-ce qu'on veut préserver la biodiversité et l'ensemble des espèces sauvages, ou est-ce que c'est en fonction de telle et telle espèce et d'intérêts qui seraient économiques ou autres? Enfin, excusez-moi, Je le redis, on est en permanence, et quand on parle de biodiversité, on a l'ensemble. Moi, je me situe en tant que citoyenne. On est très très fort pour se dire, il faut défendre le tigre, le lion, l'éléphant. Vous savez,
qui sont loin de chez nous.
Qui sont loin de chez nous. Le modèle agricole et les agriculteurs et les producteurs dans ces pays ont aussi des soucis avec l'éléphant, avec le lion, et on réussit à trouver des solutions. Et là, en l'occurrence, sur le loup, nous, on est convaincus qu'il y a des solutions, et notamment en termes de mesures de protection, que la solution, et c'est ça qui nous insatisfait dans le plan, la solution du tir, et de considérer que c'est le tir qui est la seule solution, et
donc
la systématiser...
Permettre d'abattre des loups, clairement.
Pour nous... C'est une mauvaise solution. On devrait favoriser d'abord le tir d'effarouchement, Et puis ensuite, potentiellement, et puis on a tout un système hein, de graduation, de défense
sur ces solutions qui sont proposées dans le plan des deux ministres, Nicolas Hulot et le ministre de l'Agriculture. Est-ce que les tirs, au moins l'autorisation d'avoir des tirs, même si c'est très régulier, est-ce que c'est un progrès pour vous, au contraire de ce que pense André Bellier?
Voilà, encore une fois, ce plan loup propose des mesures de protection. Ces mesures de protection, nous les connaissons, puisqu'elles sont mises en place dans les Alpes depuis 20 ans et elle ne fonctionne pas. C'est-à-dire que le loup est un animal très intelligent qui va contourner et déjouer tous les pièges qui lui sont tendus si au bout du piège, il a sa récompense, c'est-à-dire qu'il arrive à tuer une brebis, un veau. Donc, il reviendra, puisqu'il a réussi. Il suffit pour lui de déjouer le piège. Alors peut-être quand on met la mesure de protection en place, les premiers jours, ça va peut-être le détourner, il va aller dans la ferme du voisin. Mais au bout d'un moment, il réussira. Donc nous avons des chiffres, ça n'est pas moi qui le dis, ce sont des ingénieurs écologues du CERPAM, c'est la DREAL, les chiffres de l'État qui disent que 90% des troupeaux attaqués aujourd'hui en France sont des troupeaux protégés. Il faut savoir qu'en France, nous avons le record de la prédation par nombre de loups tués, le record d'animaux attaqués.
Moi, c'est difficile d'entendre ça parce que d'une part, sur les mesures de protection, on les a pas toutes développées, et d'autre part, et ça c'est une des mesures du plan loup dont nous on se réjouit, on aimerait qu'on aille d'ailleurs plus loin, c'est sur la question de l'indemnisation et de la démonstration que des mesures de protection ont été mises en place.
À partir de maintenant, le gouvernement, l'État n'indemnisera que s'il y a une preuve qu'il y a eu des mesures.
Pas à partir de la première attaque, parce qu'on peut pas anticiper la première attaque.
Alors c'est la suivante. Mais,
à partir du moment où il y a eu une première attaque, oui, que l'indemnisation et des pertes en ovins, il y ait une justification de mise en place de mesures de protection, ce qui est un peu logique.
Qui les finance, ces mesures de protection, tout de même?
Aujourd'hui, c'est nous, ce sont les citoyens.
C'est le ministère de l'Agriculture qui finance les.
Ce sont les impôts, ce sont nos impôts, ce sont les citoyens. Et ça, on n'a pas de souci avec ça. Moi, je le redis, c'est une responsabilité collective, et le fait de participer à la préservation du loup, et donc d'indemniser les éleveurs pour des pertes, moi, ça me paraît, enfin, c'est quelque chose qu'on accepte et qui me paraît naturel. C'est une responsabilité collective, c'est un choix. Par contre, il est évident que s'il y a des attaques avérées, mais qu'aucune mesure n'est mise en place, et que la seule solution qui est proposée aujourd'hui, qui est en débat, qui est de dire la seule solution c'est le tir, et qu'on n'envisage pas les solutions alternatives, et notamment de protection des troupeaux, qui sont adaptés et qui, je pense, doivent être adaptés selon les territoires, selon les modes d'élevage, selon la nature des troupeaux. Il n'y a pas une solution unique. Et ça, c'est aussi une des choses, je pense, que le plan ne va pas assez loin. Et ça fait partie des choses qu'Humanité et Biodiversité et les associations de protection de l'environnement poussent, hein, qu'on ait des mesures de gestion différenciées, qui soient adaptées au territoire, qui soient adaptées au mode d'élevage. Tant qu'on n'a pas développé toutes ces solutions, on peut pas partir du principe que c'est soit
pas.
Le loup, soit les élevages ovins, et que ça ne fonctionne pas.
Mélanie Brunet,
on manque d'études. Ça, c'est une des choses.
Ça, c'est un point que le gouvernement. On va y revenir sur l'information. Je voudrais quand même laisser la parole à votre contradicteur une minute.
Oui.
Mélanie Brunet, quand on parle de 40 abattages, donc 40 loups abattus en 2018, c'est le chiffre sur lequel ce plan s'est arrêté. C'est trop, c'est trop peu. Est-ce que je lisais en préparant cette émission que finalement abattre un loup, c'est pas toujours s'assurer qu'il y ait une diminution de l'espèce, parce que si on abat le mauvais loup, si on abat un mâle dominant, on prend le risque au contraire qu'il y ait une surpopulation.
Si vous permettez, j'aimerais revenir quand même sur les indemnisations, parce que c'est une chose très importante. Les indemnisations, donc, il faut savoir qu'entre les mesures de protection et l'indemnisation, ça coûte 26 millions d'euros à la France par an, déjà. Et il faut voir que ce plan loup, finalement, fait l'aveu que ces mesures de protection ne fonctionnent pas, puisque cette conditionnalité, comme vous l'avez dit vous-même, pour être indemnisé, il faudra avoir mis en place ces mesures de protection. Mais alors, si on a mis en place les mesures de protection, on ne devrait pas avoir d'attaque, je ne comprends pas.
Est-ce que ce n'est pas pour assurer au minimum que ça commence?
La vérité, c'est pour s'assurer au minimum qu'il y ait des mesures de protection qui soient mises en place.
Mais les mesures de protection sont mises en place.
Non, elles ne sont pas, elles sont pas mises en place. Et aujourd'hui,
les troupeaux attaqués sont protégés.
Alors ça, on n'a absolument aucun chiffre là-dessus. Et sur les constats.
C'est pas moi qui
alors ça, c'est une autre chose dont on pourrait discuter. Mais aujourd'hui, il y a des demandes d'indemnisation pour des pertes de bêtes dont il est absolument pas totalement avéré que ce sont des victimes du loup. Alors ça fait l'objet de controverses. Moi aujourd'hui, je voudrais pas rentrer dans cette controverse parce que je pense que ce qui est intéressant, il faut qu'on avance, il faut qu'on arrive à avancer. Je pense que la solution de se dire c'est le loup ou les élevages et les moutons, je pense qu'on peut pas s'arrêter, on peut pas s'arrêter à cette prise de position et d'être en opposition frontale. Donc on manque d'expertise dans un certain nombre de domaines, que ce soit dans le domaine socio-économique, sur la viabilité, et je parle pas de la viabilité du loup, mais de la viabilité des élevages ovins. Ah. On manque d'expertise sur le rapport et le comportement des loups par rapport aux brebis, aux élevages.
Justement, ce plan prévoit de récupérer des informations, des données.
Par rapport aux attaques et sur quels troupeaux. Et par contre, on a quand même un certain nombre d'études qui démontrent que les attaques sont beaucoup plus fréquentes et il y a plus de pertes sur des troupeaux qui font l'objet d'aucune protection que sur les troupeaux qui font l'objet de protection et en fonction des protections.
Mais Annie Brunet, vous ne croyez vraiment pas qu'il est possible de trouver une protection au loup, au moins de diminuer de manière acceptable le nombre de pertes ?
Jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé. Donc si Madame Bellier a des solutions, qu'elle les donne, puisque bon, moi je suis sur le terrain, et nos collègues éleveurs nous rencontrons régulièrement.
Ça se passe mieux en Italie, en Espagne par
exemple.
Alors,
parlons-en. En Italie, l'élevage ovin a régressé de 60% depuis l'arrivée du loup. Il n'y a plus d'élevage ovin, viande, il reste quelques élevages laitiers. Et alors les éleveurs embauche des bergers roumains qui vivent dans des conditions misérables dans la montagne. Ils n'ont même pas de chaussures correctes pour marcher. Ils ont des salaires que je n'osais pas imaginer pour garder. Et comme ce sont des laitiers, ils rentrent tous les soirs le troupeau. Voilà. Et ce qu'il faut quand même voir, c'est que ces mesures de protection, oui, je le répète, ça n'est pas moi qui l'invente, ça ne fonctionne pas jusqu'à présent. Les troupeaux, 90% des troupeaux attaqués sont des troupeaux protégés. Allez voir les chiffres, Madame Bellier.
Alors, bon, la crise de l'élevage ovin et notamment de l'Italie serait accordée que au retour du loup. Ça c'est.
Moi,
je veux bien que le loup et aujourd'hui et même pour la crise des élevages ovins en France soit le bouc émissaire et que on supprime le loup et puis tout ira mieux dans la filière ovine. Il y a d'autres soucis aujourd'hui qui se posent pour la filière ovine, notamment l'importation. On consomme 60% de viande ovine aujourd'hui qui sont importées de Nouvelle-Zélande ou de Grande-Bretagne.
On va faire un débat sur la filière ovine
européenne. Mais on peut le faire, bien sûr que si, parce que c'est important, parce qu'aujourd'hui la filière ovine a un certain nombre de problèmes et mettre tout sur le dos du loup et considérer que c'est parce que c'est le loup aujourd'hui qui pose le principal problème au développement de la filière ovine et à sa subsistance. Eh ben, c'est une aberration. Et je pense que quand vous énoncez, et avec cette seule raison de dire que les troupeaux ont diminué en Italie et que l'élevage ovin a diminué et que l'activité économique liée à la filière ovine a diminué en Italie et que ça n'est que la cause du loup, c'est une contre-vérité. Mmh. Et ça vient entretenir ce fameux discours du loup qui est responsable de tous les maux de la filière ovine. C'est intellectuellement malhonnête. Le loup pose un certain nombre de soucis. On essaie de trouver les solutions. Et je le dis et je le redis. C'est particulièrement douloureux. Moi, j'entends.
Oui.
J'entends tout le stress des éleveurs. Mais c'est particulièrement douloureux quand nous, on nous entend et qu'on se fait traiter d'extrémistes parce que, soi-disant, on voudrait défendre que le loup. C'est faux.
Oui, non. Alors, d'une part, oui, en grande partie, le loup, c'est un énorme problème pour lequel on n'a pas de solution. Et d'autre part, est-ce que, d'abord, l'élevage ovin se porte très bien. Le mien, je suis éleveuse en agriculture biologique, je fais de la vente directe, j'ai énormément de clients, je pourrais produire encore plus. Voilà, ça marche très bien pour nous, je vous remercie. Il y a des gens pour qui ça marche peut-être moins bien, mais ça c'est valable dans toutes les filières, dans tous les métiers. Et sous prétexte que ces gens-là auraient des problèmes, il faudrait en plus leur envoyer un nouveau problème. Alors, bon, mettons, vous avez le cancer, on va vous mettre le sida, de toute façon, c'est pas grave, vous êtes déjà malade. Alors ça, déjà, c'est un argument que je réfute. Et d'autre part, on n'a pas parlé, parce que bon, vous militez dans une association écologique, mais quand même le loup, d'abord, n'est pas un bon indicateur biologique. Il peut s'installer dans tous les milieux. Et je voudrais dire que quand même, une des préoccupations écologiques majeures en France, c'est la perte de biodiversité.
On ne va pas avoir le temps d'aller jusqu'au bout du débat. Merci beaucoup à toutes les deux, Sandrine Bellier et Mélanie Brunet, d'avoir été avec nous. Sandrine Bellier, vous dirigez l'association Humanité et Biodiversité. Mélanie Brunet, vous êtes